14 janvier 1848, sur les boulevards, eh bien, l'opéra est illuminé. Hein, donc c'est rue Lepelletier à l'époque. Et puis, aide de garde, agent en uniforme, donc événement important, à l'évidence. On va y donner Guillaume Tell, voilà, qui est une. Donc avec le baryton Massoud, et également un autre opéra avec la cantatrice Ristori, la grande cantatrice. Alors, Marie Murat, enfin, voilà. Je suis pas sûr de ma lecture, mais, peu importe. Hein. Marie Stuart, suis-je bête. C'est Marie Stuart avec la Ristori, grande cantatrice de l'époque. Et donc, le couple impérial est attendu. D'autres grands personnages arrivent, avec des équipages, des personnages de la cour en grand équipage, hommes en frac ou en uniforme constellé de médailles. Et puis les femmes qui ont toujours cette crinoline très décolletée, parce que l'impératrice, qui avait de très belles épaules, elle était très belle pour elle-même pouvoir, bien qu'elle soit très pudique, disons se dévoiler, sa gorge et ses épaules, elle exigeait que les femmes soient très décolletées. Et donc c'était cette mode-là. Et puis la crinoline, vous savez, ces robes très amples, comme des cerceaux, quoi, qui illustre un peu ce Second Empire. Mais déjà, ça commence à être battu en brèche. Nous y reviendrons dans une prochaine émission sur la présentation de la société du Second Empire. Et donc il y a un couturier Worth, W-O-R-T-H, qui est devenu le couturier de la cour et qui met fin, qui va éliminer les crinolines. Voilà. Et donc, les plus grands noms sont présents. Maupas, Mocquart, qui est le secrétaire de l'empereur, Persigny, qui fut ministre, ambassadeur, d'autres ministres, Foulde, de Billot, ministre de l'Intérieur, Pietri, préfet de police, et puis Morny, on le sait, le demi-frère prestigieux de l'empereur, qui est à l'époque président du corps législatif et qui a épousé une princesse russe, Sophie Trubetsky, voilà, lors de son ambassade en Russie en 1855. C'est un superbe dandy, on va dire. Voilà. Comme son frère aussi, hein, élégance, classe, quoi. Voilà. Et puis il y a toutes les dames du palais, telles que, là aussi, le peintre Winter Alter. Vous savez, on a ces images des dames du palais de l'impératrice, des dames d'honneur autour de l'impératrice, ce tableau élégant, avec les crinolines, les fleurs, enfin, etc. Vous l'avez probablement vu sur les images d'époque. Et puis, il y a aussi un personnage qui arrive un peu en retard, probablement pour se faire remarquer, Virginie Rodini, la Castiglione, elle est connue sous ce nom-là, qui en fait est une maîtresse de l'empereur, mais qui a été, qui est aussi un agent d'influence. Elle a été jetée dans les bras de l'empereur par Victor Emmanuel II et Cavour, qui veulent lui donner pour mission, d'influer Napoléon III en faveur de la cause de l'Italie, en fait, de l'unification italienne sous l'autorité du Piémont. Donc elle est appelée à jouer ce rôle. Elle va le jouer, on le verra, mais ça ne sera pas vraiment une réussite. Néanmoins, elle aura pour... objectivement, ça le sera, mais ce n'est pas sa mission qui influera véritablement. Hein. Mais néanmoins, elle lui rappellera la cause italienne, voilà. Et c'est une jeune femme de 19-20 ans, voilà. Donc, elle ne voit pas trop attirée qu'elle est par sa propre allure, hein, l'effet qu'elle fait. Eh bien, sur le trottoir d'en face, eh bien, il y a trois hommes, notamment trois Italiens, trois compatriotes. Donc, un homme d'une quarantaine d'années, on verra qu'il s'appelle Orsini. C'est un aristocrate, hein, voilà. À grande allure, hein, voilà, c'est un personnage un assassin, on verra, mais quelque part un héros. Et puis là, les autres, c'est des comparses. On verra qu'il s'agit d'un certain Gomez, un certain Dirudio, qui est un aristocrate, un jeune homme, d'une vingtaine d'années, aristocrate déchu. Et puis un troisième personnage, un certain Pietri, voilà. Et les trois tiennent un paquet à la main. Ils ont chacun un paquet. On le sait, on pense que c'est pour être un cadeau, enfin, etc. Et toutefois, le Pietri, qui se tient lui près de l'entrée solennelle où passent les personnalités, il est reconnu par un commissaire de police, Herbert, qui surveille les lieux. Et c'est un homme qui a un casier judiciaire chargé, qui a été arrêté. C'est un bandit de grand chemin. Enfin, et donc, il l'emmène. Pietri l'emmène et se méfie. Voilà. Quoi qu'il en soit, les deux autres, les trois autres sont ou plutôt trois, hein, voilà, sont à proximité de l'autre côté, de, sur le trottoir en face. Et ne sont pas inquiétés. Alors, bruit de cavalerie, tambour, escadron des lanciers, tout un flot de chambellans, d'aides de camp, la voiture impériale apparaît, la voiture des souverains, le général Roguet s'arrête devant l'escalier de l'opéra, Roguet, le général, donc, en descend, il tend la main à l'impératrice pour l'aider à descendre. Au même instant, un éclair et une explosion. Les vitres de l'opéra éclatent, les vitres alentour aussi éclatent. C'est une grêle de fer et de plomb. Et on entend déjà des cris humains et aussi des hennissements des chevaux qui sont couchés sur le pavé. Bientôt, tous les becs de gaz s'éteignent sous le souffle. On est dans une obscurité. C'est vraiment la terreur, puisque tumulte, cris, je l'ai dit, hennissement des chevaux. Et puis, quelques secondes plus tard, une deuxième bombe et une troisième bombe explosent. Donc, côté avant, enfin, à l'arrière du cortège impérial et sur le flanc, voilà. Et donc, bilan, 150 victimes, blessés et 8 morts. Donc, les cadavres sont là, les blessés jonchent le sol, les cadavres de chevaux aussi. Le général Roguet est blessé à la tête et son sang macule la robe d'Eugénie, l'impératrice. Et donc, le couple impérial est sauf. Hein, c'est comme, je répète, lors de la rue Saint-Nicaise, à croire que les Bonaparte sont protégés, quoi. Ils ont le baraka, ils sont sains et saufs. Alors, petit débat agité, quoi, bien sûr, et que faut-il faire? Quelle attitude? On conseille, soit il faut se mettre à l'abri, l'empereur est invité à se mettre à l'abri dans sa loge, à l'intérieur de l'opéra, avec l'impératrice, soit rendre visite aussitôt aux blessés, voir les morts, etc. Alors l'empereur voudrait voir les blessés immédiatement et les morts, mais finalement les officiels le convainquent d'entrer à l'opéra. Et donc, eh bien, c'est ce qui va se passer. On rentre dans la loge. Alors le public est présent à l'intérieur de l'opéra. Les lumières s'allument, toutefois. Et au moment où le couple apparaît dans sa loge, eh bien, c'est une ovation. Voilà. C'est les applaudissements. Voilà. Et la représentation est donnée. Ça paraît un peu surprenant, quoi, mais la représentation, malgré tout, est donnée pour faire voir qu'on ne cède pas. Et l'impératrice, par exemple, déclare, eh bien, lorsqu'on les convainc, allons-y, ne paraissons pas pour des lâches, montrons que nous n'avons pas peur, montrons-nous au peuple. Donc, après la représentation, visite aux blessés, bien sûr, du couple impérial, et retour aux Tuileries, un retour triomphal. Voilà. Les autorités arrivent au palais, mais Napoléon n'est pas triomphant. Hein. Il est même froid, et d'une colère froide, parce que lorsque on les félicite, on peut dire, de leur sang-froid et de leur survie, en quelque sorte, il est, je répète, irrité. Et au préfet de police, au ministère de l'Intérieur, Billot, votre police est mal faite, lui dit-il. Et Eugénie, s'adressant au préfet Pietri, lui dit, sachez que vous répondrez devant moi de l'avis de l'empereur. Donc, qui sont les auteurs de ce crime, de cet attentat? Eh bien, on les a nommés, hein, j'en ai vu. Donc, je les restitue à nouveau avec une petite description. Donc, il y a eu ce Pietri, qui était un bandit de grand chemin, alors là, aussi bien du point de vue politique, mais un gangster, on dirait aujourd'hui. Donc on a trouvé sur lui, lorsqu'il a été arrêté par le préfet Herbert, emmené au poste, parce que méfiant. Donc il va tout déballer, il va donner ses complices en sur lui une bombe, bien sûr la bombe, les deux autres en avaient, les trois autres, plus un pistolet, plus un poignard sur Pietri, il donne ses complices. Alors les autres, c'est un certain Gomez, qui se fait appeler Sweeney, qui serait d'anglais, et puis un certain Di Ruggio, qui se fait appeler Da Silva. Donc je l'ai dit, c'est un jeune homme, un aristocrate ruiné, mais, et père de famille. Donc, et puis Orsini, qui est alors le leader, hein, la figure charismatique. C'est un vrai conte Felice d'Orsini, c'est un Carbonari. Et donc il a la haine des Bonaparte, il a la haine de l'Autriche, la haine du pape aussi. Donc c'est un révolutionnaire pur et dur. Hein, voilà. Et donc il a erré un peu en Europe. Il a été arrêté par la police du pape. Il a fait un séjour, alors je me souviens plus du nom des géoles du pontifical, les pétrines, dans ce genre, quoi, ou les présidesses, mais pas très brutal. Hein. Et donc la clémence papale l'en fait sortir, mais il est aussi, ensuite arrêté par les Autrichiens. Et là, il connaît les géoles autrichiennes, là, beaucoup plus dures. Il s'en évade grâce à une femme qui est tombée amoureuse de lui, et donc il fait s'évader. Et donc il erre en Europe, en Autriche, en Suisse et en Angleterre. C'est en Angleterre que tous ses complices, qui appartiennent à un mouvement, le mouvement Italie Nouvelle, de Mazzini, donc révolutionnaire, hein. Il y a Garibaldi, Mazzini, etc. Donc c'est en Angleterre qu'ils vont forger leur complot, c'est à Londres. Et donc les Orsini, c'est une belle figure d'aristocrate, mais bien sûr c'est un redoutable assassin, mais il est totalement désintéressé, c'est un idéaliste, c'est aussi des Carbonari, vous voyez. Ils appartiennent, c'est ces mouvements révolutionnaires, hein, voilà. Carbonari, auquel a appartenu, on le sait, Bonaparte, notre futur Louis Bonaparte, l'actuel empereur. Et donc, à Londres, ils vont fomenter leur complot. Donc, bon, ben, je ne veux pas rentrer dans les détails. Gomez et Di Ruggio, donc, je l'ai dit. Un certain Alsop aussi, puisqu'il y aura des complices anglais. Alsop qui servira de son prête-nom Orsini, un certain Bérou, voilà, qui sera le chimiste de l'affaire, voilà. Et donc ils acheminent les matériaux à Paris, voilà. Et donc c'est l'explosion qui réussit. Alors le procès, donc Orsini méprise ses comparses, et donc il va revendiquer toute la responsabilité de l'attentat. Et bientôt, cette situation va d'ailleurs, puisqu'on l'a dit, ils étaient hébergés en Angleterre, va provoquer un rafraîchissement diplomatique, voire grave, entre la France et l'Angleterre, et notamment Persigny, notre ambassadeur à Londres. Alors il a une attitude très brutale, vis-à-vis de l'Angleterre, très agressive, voilà. Et donc il y a des pressions sur Napoléon III pour une attitude répressive, notamment l'armée. Et Napoléon III, on sait, il a des sympathies, malgré l'horreur du crime. Et bien quand on a voulu l'assassiner, il a des sympathies pour ces révolutionnaires italiens, ces Carbonari, etc. Et donc il est tenté par l'indulgence. Et l'impératrice aussi est tentée par l'indulgence, elle est très chrétienne. Elle voudrait même rendre visite à Orsini peut-être pour essayer de le convertir. Enfin, voilà. Mais les pressions sont fortes. Et les mesures sont prises, une loi notamment est votée au corps législatif sur la presse pour réduire la liberté de la presse, etc. Une sorte d'état d'urgence de l'époque, voilà. Et puis pour renforcer tout ce qui est militaire, enfin voilà. Donc la liberté de réunion est réduite, enfin, etc., voire inexistante. Le procès se déroule le 25 février 1858, il s'ouvre devant les assises de la Seine, et bien l'avocat d'Orsini, c'est Jules Favre, hein, qui deviendra un homme important, un grand avocat, une figure charismatique après la chute de l'Empire, hein, dans les débuts de la Troisième République. Voilà. Et donc Orsini, là, va se défendre, il va émouvoir, hein, les juges et le public, et il va envoyer une lettre à Napoléon III qui sera lue par Jules Favre, je vous la citerai, et c'est cette lettre là peut-être, ça paraît fou, hein, qui va inciter Napoléon III à intervenir en Italie alors qu'on a voulu le tuer, les assassins, les complices, les terroristes ont assassiné et blessé des Français, ils ont voulu tuer le couple impérial. Eh bien, c'est cette lettre, ce testament, en quelque sorte, du criminel, eh bien, du révolutionnaire, qui va l'inciter à intervenir en Italie pour défendre cette cause-là. Voilà. Et donc, eh bien, c'est la condamnation, les condamnations. Malgré la plaidoirie brillante de Jules Favre, sont bien sûr implacables. Orsini et Pietri sont condamnés à mort. Di Rudio aussi, mais il sera gracié en raison de son jeune âge et condamné au bagne à vie. Et Gomez sera condamné aux travaux forcés. Et Orsini, bien sûr, mourra solennellement. Il montera sur l'échafaud en criant « Vive l'Italie, vive la France !» Voilà. Et leur exécution a lieu le 13 mars 1858. Ils sont recouverts du voile noir des parricides. Parce que c'est un petit peu comme sous l'ancienne monarchie, bien, l'empereur étant le père, en quelque sorte, du peuple, bien, c'est vouloir tuer le père. Voilà. Et donc, c'est cet événement qui, paradoxalement, va inciter, va favoriser et pousser Napoléon à intervenir en Italie. Contre l'Autriche et pour favoriser l'unité italienne. Nous y revenons après la pause musicale.